La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment se porte la culture scientifique ? Cela ne s'entend pas à la radio, mais dans cette question que je pose, comment se porte la culture scientifique ? Le mot scientifique est mis entre parenthèses, comme pour laisser ouverte la question de savoir si la science fait ou non, doit ou non faire partie de la culture tout court. Certains parlent d'un illettrisme scientifique qui gagnerait nos sociétés, celles qu'on qualifie à tort ou à raison de postmodernes. Quelques signes portent à le penser, mais nul d'entre eux ne vaut démonstration. Le premier de ces signes tient au fait que tous ceux qui écrivent des livres de science destinés à un public large savent que les éditeurs se montrent de plus en plus insistants sur un point. Le niveau de ce que l'on écrit ne doit pas être trop élevé et le moins de choses possibles doivent être supposées connues du lecteur. Mais cette demande qui est nette relève d'une motivation qui, elle, l'est moins. Faut-il la mettre sur le compte d'un louable souci démocratique, celui de toucher le plus grand nombre de personnes, ou avert-elle plutôt qu'il existerait effectivement une croissance de l'illettrisme scientifique ? Quoi qu'il en soit, on ne saurait se montrer aussi sévère qu'Albert Einstein, expliquant que ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science et de la technologie, en ne les comprenant pas plus qu'une vache ne comprend la botanique des plantes qu'elle broute avec plaisir, devrait avoir honte. Fin de citation. Le père de la relativité se montre là beaucoup trop exigeant, en plus d'être injuste avec les ruminants, qui savent sans doute deux ou trois choses sur la vie des herbes qu'ils mâchouillent sans se lasser à une cadence d'essuie-glace. Il est en effet devenu impossible de se faire une bonne culture à la fois sur la physique des particules, les ondes gravitationnelles, la génétique, le nucléaire, la climatologie ou l'immunologie, de sorte que si l'on voulait que les citoyens participent aux affaires publiques en étant vraiment éclairés sur tous les sujets, il faudrait que chacun ait le cerveau de 1000 Einstein, chose qu'Einstein lui-même ne possédait pas puisqu'il n'en avait qu'un seul, qui plus est normal. Comment améliorer la situation ? Pour en discuter, je n'y suis pas allé par quatre chemins, j'ai pris mon ordinateur et j'ai adressé par mail une invitation à Bruno Macquart, président d'Universcience. Il m'a répondu aussitôt oui, ce qui a pour conséquence présente qu'il est en face de moi. Bonjour Bruno Macquart.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes ingénieur agronome et scientifique donc, et vous êtes aussi énarque.
Alors je ne suis pas énarque, je suis ancien élève de l'ENA.
Je comprends la nuance. Bah, je crois que vous êtes le seul ancien élève de l'ENA invité à cette émission. Écoutez, j'en suis très heureux. Merci. Et j'aimerais pour commencer que vous nous expliquiez comment on peut passer de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur agronome à l'École nationale d'administration. Qu'est-ce qui fait la transition ?
Alors ce qui fait la transition, c'est de se retrouver à 21 ans, 22 ans, à faire son service militaire à New Delhi, en Inde, à l'ambassade comme attaché agricole. Un an ailleurs, un an pendant lequel vous avez du temps pour penser. Et c'est le bon moment pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Et je m'étais toujours posé la question de savoir si je devais ou pas faire l'ENA, parce que je voulais travailler pour la chose publique, pour dire les choses assez simplement. Et puis ma conviction s'est forgée au fil des semaines et des mois à New Delhi. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bon, ben, je vais y aller. C'est comme ça que ça s'est passé et j'ai eu la chance d'y arriver. Je ne suis pas le seul, on est quelques-uns, on se connaît d'ailleurs, puisqu'on est quelques originaux qui ont une formation double. L'intérêt de la formation d'AgroParisTech, c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, c'est une formation extrêmement pluridisciplinaire en fait, qui prépare beaucoup à faire d'autres choses et à comprendre le monde et puis à finalement à suivre une voie qui est la sienne.
Vous êtes aujourd'hui, Bruno Macquart, président d'Universcience. On sent que la question de la culture scientifique vous intéresse. C'est une question qui n'est pas simple. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, là encore, franchi le pas d'y aller ? Est-ce un goût personnel ? Ou est-ce que c'est parce que vous aviez le sentiment qu'il y avait un défi public, politique, presque à relever ?
Il y a même une question démocratique, citoyenne. La science est partout autour de nous, mais elle n'est pas suffisamment dans le débat public et dans le monde culturel, elle occupe une place à part, singulière, peut-être un peu trop à l'ombre. Et je pense qu'il nous revient aujourd'hui de profondément transformer les modes d'adresse au public et de faire en sorte que la science reste le sujet autour duquel s'ordonne la décision publique, les choix collectifs, puis la vie de chacun finalement.
Est-ce que vous comprenez d'où vient que la science aujourd'hui, bien qu'elle change la vie de chacun par son halo technologique, soit presque en lévitation intellectuelle dans le monde politique, elle est très peu souvent évoquée. On parle beaucoup de l'organisation de la recherche, mais pas des résultats de la science elle-même. On voit que la campagne présidentielle commence et j'ai pas entendu qu'elle soit vraiment abordée. Est-ce que vous expliquez cette sorte de schizophrénie d'une science qui agit dans la vie des gens plus que beaucoup de lois qui sont votées au Parlement, mais qui n'est pas l'objet de réflexion, de discours de la part du personnel politique?
Je dirais que la science a besoin de grandes voix, de grandes voix nationales, de grandes voix européennes, de grandes voix mondiales. Et puis la science a aussi besoin que les scientifiques s'engagent dans la vie publique, individuellement, collectivement. Quand des prix Nobel interpellent les pouvoirs publics, par exemple sur le montant des crédits de la recherche, c'est une manière de servir la science, évidemment. On constate aujourd'hui que le personnel politique compte peu de scientifiques dans ses rangs. C'est un état de fait. Alors, si j'ai juste une suggestion à faire aux scientifiques, c'est engagez-vous en politique, faites-vous élire maire, faites-vous élire conseiller régional, faites-vous élire député. C'est le meilleur moyen de...
C'est-à-dire qu'au lieu de déplorer que les politiques ne parlent pas de science, les scientifiques devraient s'engager dans la politique?
Les politiques, ce sont jamais qu'une expression de nous-mêmes. Hein. C'est un miroir. Les politiques nous tendent un miroir. Et quand le miroir nous renvoie une image qui ne nous plaît pas, à nous de changer ce que nous sommes pour que l'image soit plus appropriée.
Et comment est-ce que vous expliquez, vous qui êtes auprès de ces questions aujourd'hui, que lorsqu'on tente d'organiser des débats publics sur ce qu'on veut faire des technologies, je pense aux nanosciences ou d'autres sujets de ce type comme la biologie de synthèse, ça provoque à la fois c'est une sorte de curieux mélange de conflits très violents et d'indifférences massives. Il y a des gens qui sont très engagés pour ou contre, et puis le public qui reste à distance en manifestant un intérêt qui peut être quasi nul.
C'est la grande question de la démocratie aujourd'hui et de la manière dont on fait délibérer collectivement des populations, une société qui aujourd'hui, pour des raisons diverses, est éclatée. L'information est grande et je pense que chacun se dit en abordant une question qu'elle est tellement vaste qu'il n'arrivera pas à l'appréhender complètement. Donc il faut qu'on cherche des méthodes pour que, à rebours de la démagogie, nous trouvions les moyens de faire émerger des paroles citoyennes. C'est vrai pour la science, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. C'est vrai dans le secteur de la santé sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je pense que nous devons, on y reviendra, j'imagine, institutions de culture scientifique, ou de diffusion scientifique, travailler à ces questions-là qui sont majeures pour nous. Nous ne sommes plus simplement des dispensateurs de savoir, mais nous sommes aussi des animateurs d'un débat difficile, compliqué, et je mentirais en disant qu'on a trouvé la réponse. Mais on la cherche.
Oh là là, j'ai jamais rien compris aux maths et physiques, mais si on m'avait emmenée au Palais de la Découverte quand j'étais petite, peut-être j'aurais compris que ces matières peuvent être intéressantes et ludiques.
Alors, je reviens maintenant à votre fonction d'aujourd'hui. Bruno Macquart, vous êtes président d'Universcience. Vous êtes saturé d'anniversaires en ce moment. 30 ans de la Cité des Sciences et 80 ans pour le Palais de la Découverte qui fait partie d'Universcience. Alors, comment est-ce que vous avez préparé ces anniversaires? Quelles sont les manifestations qui vont y être associées?
Alors, un anniversaire, c'est bien. Deux anniversaires, c'est encore mieux puisque c'est un moyen pour nous... grâce au calendrier de relier nos deux sites, nos deux maisons, puisque la Cité des Sciences et de l'Industrie a été ouverte en mars 1986.
Le 13 mars.
Exactement.
Il s'est passé autre chose.
Il s'est passé quelque chose dans le ciel. Et puis par ailleurs...
Pour les auditeurs, je le précise quand même quoi, parce que je pense que personne ne s'en souvient. C'était le jour de la rencontre de la comète de Halley et de la sonde Giotto.
Européenne.
Européenne.
Ce qui n'est pas neutre. Et le Palais de la Découverte, lui, a été ouvert en mai 1937, dans le cadre de l'exposition internationale. Donc on s'est dit qu'on allait pouvoir ouvrir une saison en mars 2016, et il a clore en mai 2017, des 30 ans de l'une aux 80 ans de l'autre. Alors, ce double anniversaire, il est à la fois le moyen, l'occasion de réfléchir à ce qu'on a fait, de là où on vient, d'écrire notre passé, puisqu'on est en fait assez peu soucieux d'écrire le passé, aussi étrange que cela paraisse. Donc, de laisser des traces, en tout cas d'organiser des traces, et puis d'avoir une réflexion critique sur ce qu'on a fait, pour nous projeter dans l'avenir. Parce qu'un anniversaire, c'est aussi pour dire, l'année prochaine, je ferai ça. Nous, c'est pas l'année prochaine, c'est dans les 10 ans qui viennent. Cet exercice de projection, nous l'avons évidemment mené collectivement, parce qu'il engage une communauté de travail soudée autour de grandes valeurs. Alors, ce sera l'occasion, c'est déjà l'occasion, puisqu'elle a commencé, de lancer de nouveaux formats. On a lancé des événements qui sont des week-end, par exemple sur les drones, que nous avons fait au printemps dernier. Nous allons également lancer un colloque sur la muséologie scientifique sur 2 jours, qui permet de faire le point sur de là où on vient et là où on va. Et puis, 1000 autres choses qui prennent des formes variées sur le net. On a fait des sites internet dédiés. Et puis, je crois surtout que c'est un moyen pour nous... Je voyage beaucoup, de dire à l'étranger que Univers Science, ce sont 2 établissements aujourd'hui, non plus un seul, et qu'ils apportent de manière complémentaire une expertise, une French touch sur la science, et qu'elle a de l'intérêt.
Vous vous posez la question de savoir d'où on vient quand il s'agit du Palais de la Découverte ou de la Cité des Sciences. Bon, le Palais de la Découverte, c'est connu, a joué un rôle décisif dans la vocation de beaucoup de scientifiques d'aujourd'hui. Mais l'ambiance a changé quand même. C'est Jean Perrin qui l'a fondé, le Palais de la Découverte.
C'est Jean Perrin, c'est un enfant
prix Nobel de physique,
un enfant du Front Populaire.
Découvreur de l'atome en 1907, prix Nobel de physique en 1926. Et voilà ce qu'il disait en 1930, bon, c'est un peu avant la création du palais, c'est au moment de la création de la Caisse nationale des sciences, qui est l'ancêtre du CNRS. Je cite Jean Perrin, « Rapidement, peut-être seulement dans quelques décades, bon, je pense qu'il voulait dire décennies, ça, décade, 10 jours, c'est, enfin, en anglais c'est plutôt 10 ans, mais en français c'est 10 jours, seulement, peut-être seulement dans quelques décades, si nous consentons aux légers sacrifices nécessaires, les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau. Ce sera un Éden qu'il faut situer dans l'avenir, au lieu de l'imaginer dans un passé qui fut misérable. » Une sorte d'ode au progrès, qui semble un peu décevée aujourd'hui.
Il s'est passé des choses.
Il s'est passé des choses, voilà, par la suite, mais il s'était en fait déjà passé des choses. Alors comment est-ce que vous arrivez à adapter le Palais de la Découverte, qui va être fermé pendant quelques années pour travaux, justement, à partir de 2020. Comment est-ce que vous allez adapter la situation actuelle?
C'est une question essentielle, parce que, et d'abord une chance pour nous, puisque nous avons la charge, l'honneur de réinventer le Palais de la Découverte, et de trouver les moyens aujourd'hui, tout en étant fidèle au principe fondateur, d'avoir un instrument au cœur de Paris, dans un écrin totalement renouvelé, de proposer de parler des sciences de manière, je dis, repensée. Alors, il ne s'agit pas de tout transformer en salle avec des écrans uniquement, tout repeindre en blanc, de passer tout à la Javel, même si le Palais de la Découverte a le charme de l'ancien, et qu'aujourd'hui, les nécessités techniques, évidemment, rendent urgentes des mises aux normes. La rénovation du Palais de la Découverte, c'est des murs, mais c'est d'abord et avant tout un projet scientifique. Et nous sommes en train de nous organiser pour...
Est-ce qu'il y aura toujours des démonstrations d'expérience? Est-ce qu'on pourra voir ses cheveux se dresser sur sa tête?
La réponse est oui. Parce que il faut... Non pas faire du neuf avec du vieux, mais en tout cas garder ce qui fait l'esprit de cette maison, qui est un esprit très singulier et qui la rend populaire, puisque c'est une maison qui a une notoriété très élevée et que les gens fréquentent beaucoup, en famille, avec l'école. Mais il faut qu'on trouve là aussi un moyen de renouveler l'approche. Et en fait, on a déjà commencé, puisque nous allons ouvrir dès l'année prochaine, presque en avant-première des travaux, une unité sur l'informatique et les sciences du numérique. Parce que nous pensons que c'est une discipline ou un champ disciplinaire qui est devenu aussi important que la physique en son temps, cher Étienne Klein, ou la chimie, et qu'il est
sans
temps
la remplacer.
Sans la remplacer, évidemment, mais en tout cas de lui donner une place de science à part entière et de parler du monde d'aujourd'hui comme nous l'avons toujours fait. Alors les exposés que vous mentionnez, c'est la marque de fabrique de cette maison, et c'est une rareté dans le monde d'aujourd'hui de trouver des gens instruits et dont le métier est de vous instruire à leur tour. Et cette façon de faire, qui est d'avoir un contact avec une personne qui vous parle d'un sujet, eh bien, nous allons évidemment non seulement la préserver, mais lui donner encore plus de vigueur. Parce que ça fait du Palais de la Découverte un endroit où vous pouvez poser des questions et obtenir des réponses. Et ça, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans le monde culturel en général, c'est assez rare. Quand vous sortez d'un musée, la plupart du temps, vous avez des questions, et puis c'est à vous de trouver les réponses sur Internet, en allant en bibliothèque, en interrogeant des amis ou des proches. Là, nous entretenons un dialogue direct avec nos visiteurs, que ce soit des gamins qui sont à l'école, ou bien que ce soit un adulte qui connaît le sujet, ou pas du tout. L'intérêt du médiateur, comme on l'appelle, c'est qu'il calibre son discours sur les gens qu'il a en face de lui.
Donc, parce que la mission d'Universcience est une mission impressionnante. Cette mission, c'est de diffuser, je cite, la culture scientifique, technique et industrielle auprès de tous les publics, quel que soit leur âge, leur niveau de formation, leur origine géographique ou sociale.
En
vaste
effet.
Programme.
Vaste programme, c'est une institution universelle. C'est bien pour ça qu'elle est française, j'allais dire. Elle est universelle parce qu'elle s'adresse à tous. Elle s'adresse aux sachants comme aux non-sachants. Elle s'adresse à tous, quelle que soit son origine sociale et géographique. Et il y a des gens qui sont éloignés de la culture en général et de la culture scientifique en particulier.
Est-ce que vous les avez identifiés ? Est-ce que
oui,
c'est des clashs d'âge ?
On les a identifiés. En fait, j'allais dire malheureusement, et c'est le sujet de l'ensemble des institutions culturelles depuis 30 ans. C'est pas le sujet d'Universcience depuis que je suis arrivé. Mais depuis 30 ans, le secteur culturel pris en son entier cherche à aller au-devant de ceux dont le niveau d'appétence pour nos sujets est faible. On les trouve essentiellement dans les populations les moins qualifiées, parce qu'il y a une corrélation en fait très forte entre la fréquentation des lieux culturels et le niveau socioculturel. On a la chance, nous, à Universcience, de manier des objets, la science, l'innovation, les techniques, qui souffrent moins de barrières sociales. Quand vous allez au Louvre, vous regardez un tableau mythologique, soit vous voyez des gens à moitié nus qui se prélassent ou bien qui se battent, il faut qu'on vous explique qui ils sont, ce qu'ils représentent et pourquoi on les a peints. Il y a moins de barrières sur nos sujets. C'est-à-dire que la science est plus... rend les gens plus égaux.
Il peut y avoir la barrière de l'abstraction pour certaines sciences.
Il peut y avoir la barrière de l'abstraction, du vocabulaire. Je ne dis pas que la science est un sujet facile et proche d'emblée, mais ça, c'est notre métier. Nous, on est un peu le troisième homme, hein, entre le chercheur et le citoyen. Il y a...
Le médiateur.
Le médiateur.
Car vous parlez de différentes sortes de publics qui se distinguent par leur niveau de formation, en quelque sorte, mais est-ce qu'il y a des effets d'âge aussi ? Est-ce que les jeunes adultes viennent aussi facilement que les personnes âgées ou que les enfants qui sont amenés par les écoles, par exemple ?
Il y a un double effet d'âge. Et on a deux zones de progrès, on va dire ça comme ça. Les 15-25 ans, ou 15-30 ans, peu importe. Disons les jeunes adultes ou les vieux adolescents. Ils viennent en moyenne peu dans nos établissements. Et quand ils viennent chez nous, ils viennent pour y faire des choses assez spécifiques. Nous organisons des masterclass sur les jeux vidéo qui attirent ce public-là. Et c'est ce qui motive le projet que nous avons d'ici un an, d'ouvrir un espace permanent sur le jeu vidéo au sein de la Cité des sciences et de l'industrie, qui est un peu le pendant de ce que nous faisons au Palais de la Découverte avec l'unité informatique et sciences du numérique. Donc un espace dans lequel il y aura à voir, mais aussi à faire. Parce qu'il y a un peu trois âges ou trois façons de faire pour parler des sciences au grand public. J'allais dire, il y a la façon à laquelle on a été habitué quand on était enfant, qui était voir, regarder sans y mettre les mains.
Écouter.
Ma mère me disait, tu touches avec les yeux. Ça m'a toujours frappé. Donc il fallait mettre les mains derrière le dos, mais il fallait surtout ne toucher à rien. C'est le cas dans de nombreux établissements culturels. Et puis il y a une deuxième manière de faire, qui est de toucher. C'est justement ce que la Cité des sciences, et les centres de sciences en général, nous ne sommes pas seuls à le faire évidemment, ont inventé. C'est non seulement il n'est pas interdit de toucher, mais il est même recommandé de toucher. C'est-à-dire c'est avec la main qu'on va vous conduire à appréhender, comprendre, expérimenter, vous interroger.
On y reviendra, mais parmi les axes de votre programme, il y en a un qui s'intitule « Les mains dans le cambouis ».
Tout à fait.
C'est de ça que vous parlez, en fait.
Presque. Troisième dimension de la démonstration des sciences, c'est le faire. C'est aujourd'hui très important d'amener les gens à faire avec nous, parce que c'est aussi un moyen d'apprentissage. Et au-delà de ce que je disais sur les jeux vidéo, nous avons créé un Fab Lab, qui est donc une espèce d'atelier du bricolage du 21e siècle, ouvert à tous, ceux qui codent, ceux qui codent pas, dans lequel on trouve des découpeuses laser, des imprimantes 3D, et qui sont les endroits où l'appropriation des techniques se fait par le geste et par la création, accompagnée ou non.
Donc les gens peuvent venir.
Les gens peuvent venir,
ils ont accès à des machines,
à de la matière, à du savoir-faire, à des gens, des médiateurs, mais aussi ils ont accès à d'autres.
Ils sont encadrés.
Ou pas.
Est-ce qu'il y a de la casse ?
Non, parce que ce sont des machines finalement qui sont robustes et on ne met pas 50 personnes autour d'une découpeuse laser. Donc de toute façon, les gens sont très encadrés quand ils ont accès à ce genre de bêtes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des lieux où les gens se rencontrent. Parce que nous sommes aussi des lieux où il est bon de ne rien faire, où il est bon de rencontrer d'autres gens, où il est bon que l'esprit vagabonde. Nous devons être des lieux de vagabondage plaisant et nous entendons être des agora, des places de village. Ça s'appelle la cité, hein, la villette, c'est pas pour rien non plus. Hein. Une cité, il y a des places, il y a des quartiers, il y a des immeubles. Et nous voulons être un lieu où les gens peuvent se rencontrer, soit qu'ils viennent avec en communauté prédéfinie, soit que des communautés se constituent grâce à nous. En fait, nous sommes des pourvoyeurs de ressources cognitives, techniques, mais aussi sociales. C'est-à-dire, nous offrons
vous
des environnements.
D'expérimentation sociale, localement ?
Oui, en tout cas, on veut être un lieu dans lequel les gens puissent inventer leur devenir individuel ou collectif, expérimenter des choses, venir échanger avec d'autres. Tout ça est en train de bouger assez vite, finalement, ce qu'on appelle les tiers-lieux, d'un mot un peu pompeux, mais qu'on voit se développer un peu partout. Le Fab Lab va devenir un équipement, j'allais dire standard, le Centre Pompidou, établissement cher à mon cœur, ouvre un Fab Lab pour les 9-12 ans. C'est un moyen d'attirer les jeunes, la génération Y, les bidouilleurs et les non-bidouilleurs, à nos sujets et dans nos établissements.
Donc là, vous parlez de la première tranche d'âge qui, pour ce qui est des institutions culturelles, manifeste assez peu d'appétence. Il y en avait une deuxième, je crois.
La deuxième, c'est les seniors à la Cité des sciences et de l'industrie.
Alors, seniors,
parce que la Cité des sciences et de l'industrie est gigantesque. Comme vous le savez, c'est 4 fois la taille du Centre Pompidou. Hein. C'est un gigantesque bâtiment.
Il faut beaucoup marcher.
Le bâtiment intimide un peu. Autant le Palais de la Découverte, vous y rencontrez beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants. Ça, c'est très joyeux. Autant à la Cité des sciences et de l'industrie, on a moins de seniors parce que je pense que le lieu est un lieu un peu intimidant pour ceux qui on lâche d'être retraité.
Et donc, comment est-ce que vous allez faire ? Vous mettez des sièges ?
Alors, l'attention aux autres, ça commence par ça, c'est-à-dire de donner des sièges, de faire attention que les choses soient compréhensibles de tous. Et on a une tradition d'ouverture à tous ceux qui, par les hasards de la vie ou par les malheurs de la vie, souffrent d'un handicap. Donc, en matière d'accessibilité, la maison a une très forte tradition. Nous traduisons en braille tout ce que nous faisons. Nous avons beaucoup de choses pour les personnes malentendantes. Et l'accessibilité universelle, ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à tout dans les mêmes conditions. Écrire un peu plus gros les cartels, par exemple, ça permet à tout le monde, y compris aux gens qui, dont la vue baisse, commencent à rentrer dans cette catégorie d'âge, ma foi, d'avoir un niveau de confort plus important. Et donc ça passe par là. Puis ça passe aussi par le développement d'une offre plus spécifique et par le traitement de thématiques qui intéressent aussi les personnes âgées.
Là, pour qu'on fixe un peu les ordres de grandeur, il y a combien de visiteurs par année, soit au palais, soit à la Cité des Sciences?
Alors, bon an, mal an, sachant que l'année dernière...
Il y a des grosses fluctuations?
Pardon?
Il y a des grosses fluctuations d'une
année sur l'autre? Il y a des fluctuations, oui. Il y a des fluctuations, d'abord parce que les fluctuations dépendent de facteurs internes, succès ou pas de la programmation. Là, cette année, au Palais de la Découverte, on a montré une exposition sur les dinosaures. Nous avons connu une fréquentation en hausse de 50%. Heureusement que les dinosaures sont là. Et puis, il y a des facteurs exogènes, comme malheureusement les attentats qui ont frappé Paris l'année dernière, à deux reprises, et fait redoubler pour nous par l'incendie qui nous a frappé au mois d'août 2015.
Au moment où vous avez pris vos fonctions.
Quelques semaines après, oui. C'était une entrée en matière assez...
Un accueil.
Assez original, mais du coup d'ailleurs on va produire une exposition sur le feu la saison 17-18 parce que c'est un beau sujet, un bel objet, un beau phénomène scientifique et autour duquel on peut faire beaucoup de choses.
Et c'est l'incendie qui vous a donné l'idée.
Exactement, j'ai sorti ça un peu comme une boutade pour dire tiens, on devrait faire une exposition, puis les équipes sont venues me voir après quelques semaines en disant « Mais non, le sujet est très intéressant, en fait. On va, si vous persistez, on propose de le traiter. » Donc, c'est inscrit à la programmation, nous avons une exposition sur le feu. Donc, rendez-vous. Et bien alors, la fréquentation, c'est nos eaux moyennes, c'est aux alentours de 3 millions de personnes. Voilà. Un peu moins cette année. L'année dernière, c'était un peu plus en 2014. Mais grosso modo, j'allais dire la jauge habituelle, c'est 500 000 personnes au Palais de la Découverte et 2,5 millions à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ce qui fait de nous...
Et c'est des publics qui se recouvrent? C'est-à-dire ceux qui vont à la Cité vont au Palais réciproquement ou...
Pour partie. De toute façon, dans les 2,5 millions de la Cité, il y a des gens qui reviennent plusieurs fois. Nous avons des équipements variés, puisqu'on a une bibliothèque publique, qui est la troisième bibliothèque publique de France. Il faut...
Plus de 3 millions d'ouvrages.
C'est un fonds gigantesque qui est en pleine transformation, puisque le numérique, évidemment, pose des questions au monde des bibliothèques assez redoutables. Et on a décidé de les prendre à bras-le-corps. Donc la bibliothèque est en train de... est dans une phase de chrysalide et le papillon va bientôt sortir.
Alors, je parlais tout à l'heure des axes de la programmation. Peut-être qu'on peut y revenir et les détailler un petit peu. Le premier, si j'ai bien compris les documents, c'est la science toute une histoire. Donc, il s'agit de raconter des histoires de découvertes pour que chacun ait une meilleure connaissance de ses connaissances. On sait tous que la Terre est ronde, mais on ne sait pas forcément comment on a su qu'elle était ronde.
C'est exactement cela, parce que il n'y a pas de linéarité dans le travail créatif scientifique, et il faut montrer que la science est une œuvre humaine qui emporte toutes les caractéristiques et qu'elle permet aussi de raconter l'histoire du monde. Et que la science n'est pas un objet posé sur une étagère à part, mais qui est au centre de nos sociétés, qu'elles en expriment le génie à un moment donné, qu'elle raconte son histoire économique, qu'elle raconte son histoire culturelle, son histoire sociale, son histoire religieuse, et qu'il est important d'éclairer cet arrière-plan, parce que nous avons la conviction que pour parler d'aujourd'hui, il faut parler d'hier, ou pour parler de demain, il faut parler d'hier.
Et donc ça va être des thèmes spécifiques, j'imagine?
Nous avons, en matière d'exposition, organisé il y a quelques années une exposition sur Léonard de Vinci. Nous venons de fermer une exposition sur Darwin et l'évolution. Et puis nous allons programmer pour la saison 2017-2018 une exposition sur Pasteur, puisque Pasteur est un scientifique original à plusieurs points de vue, qui nous permet de parler du 19e siècle, c'est un des deux génies du 19e siècle avec Victor Hugo, mais qui nous permet aussi de parler de beaucoup de choses, la manière dont la science se fait, les rapports entre la science et l'industrie.
Donc c'est toujours centré sur un personnage, un génie, comme vous dites?
Alors, on raconte une histoire, et je pense que la science doit aussi s'incarner, je le disais tout à l'heure, en parlant de politique, mais elle doit s'incarner en des personnages. Il ne s'agit pas de faire une galerie des portraits où n'émergeraient que quelques grands hommes ou grandes femmes, pas assez de femmes d'ailleurs, mais il s'agit de donner à comprendre l'histoire des découvertes scientifiques.
Alors le deuxième axe, si j'ai compris aussi bien que pour le premier, c'est attention, science fraîche, comme il y a de la peinture fraîche.
Exactement.
Alors le attention veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre ses savoirs avec prudence?
Ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir. Attention, mesdames et messieurs, c'est ça que ça veut
c'est
dire.
C'est un appel à la curiosité.
C'est un appel à la curiosité. Il se passe des choses à cet endroit-là, qui sont toutes récentes. Et nos maisons ont pour fonction, dans le bruit de l'actualité scientifique, de dégager ce qui présente un intérêt. Et ça, on le fait pas tout seul, parce que c'est pas les équipes d'Univers Sciences qui en décident toutes seules, mais c'est grâce à nos liens étroits avec la communauté scientifique que nous sommes à même de traiter des sujets quand nous jugeons que, conseillés par le monde scientifique, qu'il est temps d'en parler.
Et donc, quels sont les organismes scientifiques qui sont représentés dans le conseil scientifique,
j'imagine. Alors, nous avons mis au point, de manière assez empirique, une méthode de travail assez passionnante qui consiste pour chaque exposition à regrouper un petit nombre, une dizaine de scientifiques, français, étrangers, de disciplines différentes, d'organismes et de rattachements institutionnels variés, et qui nous aident à formuler notre propos et qui sont les garants de son exactitude scientifique, puisqu'évidemment, notre capital symbolique, il est lié à la rectitude absolue de ce que nous disons, de ce que nous faisons et de ce que nous émettons. Mais au-delà de ça, nous sommes en train de réfléchir et j'ai eu une longue conversation avec Alain Fuchs du CNRS l'autre jour sur le sujet, à mieux organiser ce travail entre les organismes de recherche et nous pour traiter du mieux possible l'actualité scientifique. Ceci étant dit, beaucoup de nos salariés ont des contacts quotidiens avec la recherche. Donc les choses, en fait, viennent, j'allais dire, assez spontanément. Il faut que, par capillarité, nous soyons totalement en prise avec le milieu. Mais on a quelques grands partenaires, le CEA, bien évidemment, l'INSERM, l'INRIA, l'INRAP, le CNRS, l'IRD. Enfin, les grands organismes de recherche sont évidemment nos partenaires. Et je souhaite que ce soit leur maison.
Un autre axe qui me semble très important, les mains dans le cambouis. Vous dites, le pays de Gustave Eiffel doit autant à ses ingénieurs qu'à ses savants.
Oui, c'est une manière de...
Gustave Eiffel qui n'avait pas eu son diplôme, je crois.
Non,
il l'a eu par la suite.
Le monde est plein de gens qui, Dieu soit loué, ont réussi à exprimer leur génie, même s'ils n'ont pas eu de fortune universitaire ou académique au départ. Mais c'est un élément important, constitutif de la Cité des sciences et de l'industrie, et qui permet d'illustrer aussi les grandes réalisations de la science appliquées dans le monde de tous les jours. Et nous tenons beaucoup à cette dimension. Les sciences de l'ingénieur méritent qu'on les...
Vous pensez qu'elles sont moins prestigieuses que les sciences fondamentales?
Je ne sais pas si elles sont moins prestigieuses, mais en tout cas, elles doivent être traitées, j'allais dire, au même rang que les sciences fondamentales.
Ensuite, les mutations de notre monde, société-science, c'est comme ça que vous appelez le...
C'est comme ça qu'on appelle...
Société-science.
Société-science. On a cherché pendant des semaines une manière de le dire, et c'est ce à quoi on est arrivé. Alors, c'est une des marque de fabrique de la Cité des sciences et de l'industrie que de s'intéresser aux relations entre sciences, techniques, innovation et société. Et donc de pousser assez loin, en fait, les limites de notre engagement, puisque on a en ce moment une exposition sur la santé mentale, on en aura une sur le big data l'année prochaine, on en a une sur les mutations urbaines aujourd'hui. Donc parler de la société, parler du monde qui nous entoure... Et évidemment, à chaque fois, convoquer la science et la technique. Mais là, en prenant le parti de parler de la société et des grandes questions qui nous agitent. Mais de toute façon, les grandes questions scientifiques sont des questions sociales. Les questions sociales sont des questions scientifiques.
Donc vous réfléchissez à la façon dont les innovations sont acceptées, mal acceptées. Est-ce que la dimension politique des questions qui tournent autour des applications de la science est traitée là?
Mais par exemple, dans l'exposition Mutations urbaines, c'est une exposition qui dit que ces méga-systèmes que sont devenus les villes aujourd'hui sont en fait des systèmes mus par des décisions citoyennes et que la ville est à nous. et que la ville, c'est nous qui la faisons. Et que il ne faut pas penser que nous sommes dépossédés du devenir de notre environnement quand on vit en ville par d'autres, et qu'il y a place pour une action citoyenne. Et nous le montrons par la preuve, c'est-à-dire que nous avons fait un tour du monde et nous avons apporté à Paris de nombreuses expériences, que ça soit Medellin, que ça soit Détroit, que ça soit
un tour du monde pour voir comment les grandes villes s'organisent,
pour voir comment les initiatives citoyennes, petites ou grandes, qui permettent à la ville d'évoluer et aux citoyens de peser sur le devenir de son environnement urbain. Pour nous, c'est une manière très importante de parler de science aussi.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire à Paris, par exemple, qui changerait la vie des Parisiens ?
Bah écoutez, ce qui pourrait changer la vie des Parisiens, c'est fermer totalement Paris la circulation.
Il y a des villes où c'est comme ça ?
Il y a des villes où c'est comme ça, oui. Il y a des villes où il y a... quand on les construit de zéro, c'est beaucoup plus simple. Où on pense, évidemment, les circulations à partir de ce qu'on sait aujourd'hui. Et je pense que la difficulté qu'a une ville comme Paris, mais qu'ont toutes les grandes métropoles, c'est de passer d'un modèle à l'autre. Et les chemins sont multiples, ils sont tous en pente.
Avec la publicité, vous êtes informé.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Axe chemin de traverse, la science où on ne l'attend pas.
Là aussi, c'est une marque de fabrique de la maison et une conviction assez profonde. Si vous permettez, je vais faire une toute petite digression. Le ministère de la Culture vient de son département de prospective, vient de faire paraître une étude assez passionnante sur les représentations des Français face à la culture. Qu'est-ce que pour vous la culture et qu'est-ce qu'elle n'est pas la culture ? Ils ont posé des questions en disant est-ce que ceci, cela, c'est de la culture ? Eh bien, la science arrive en deuxième position, c'est-à-dire que 77% des Français estiment que la science, c'est de la culture, juste après la visite d'un musée ou d'un monument, et bien avant le fait d'écouter de la musique, de lire la presse,
d'aller au concert,
ou bien au cinéma. Ça,
la science est devant le cinéma ?
La science est très loin devant le
Je
cinéma.
Je peux pas le croire.
La science est très loin devant le cinéma. Et ça, c'est un résultat qui, pour nous, est capital, parce que ça vient conforter notre intuition depuis le départ, c'est que la science a beaucoup à voir.
Il va falloir faire des films de science pour sauver les cinémas.
Bon, on en fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, pendant la fête de la science, dans quelques jours, nous allons montrer, on fait un festival qui va s'appeler Science en vue, avec 58 documentaires qui ont été financés par les investissements d'avenir, dans le cadre de bourses, sur la science.
C'est-à-dire qu'Univers Science fait des films.
Univers Science gère une plateforme universcience.tv qui a plus de 3 millions de vues par an, qui est, avec une petite trentaine de contributeurs, la première plateforme en langue française de diffusion multimédia scientifique. C'est un instrument essentiel dans le monde d'aujourd'hui de diffusion de la science, et nous avons une audience qui croît de 20% par an.
Alors revenons à ces chemins de traverse, là. La science où on ne l'attend pas.
Alors c'est attraper la science par, j'allais dire, par des sujets qui a priori ne sont pas des sujets scientifiques. La saison prochaine, nous allons montrer une exposition sur les effets spéciaux. C'est du cinéma. puisque vous en parliez. Mais derrière les effets spéciaux, il y a de la technique, il y a de la science. Et donc c'est comment on amène à parler de science en convoquant d'autres champs disciplinaires, d'autres champs culturels, que ce soit le cinéma, les arts plastiques. Nous allons relancer une politique de dialogue avec les arts qui ne soient pas les arts qui viennent illustrer un propos scientifique, mais qui nous permettront, je l'espère, de montrer que, et ça c'est une de mes, quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui est de montrer que le génie de l'homme est un, et que les scientifiques sont des créateurs, et que nous devons les considérer comme tels, et que ils ont beaucoup à, nous avons beaucoup à gagner, que ce soit le public ou les institutions, à mettre ensemble et à faire dialoguer des artistes et des scientifiques, parce que ce sont des cousins finalement. Pour la première fois depuis très longtemps, Universcience a passé commande à un artiste vivant qui va réaliser une œuvre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est lui qui va occuper le couloir qui va relier la Cité des Sciences et de l'Industrie avec la zone de commerce qui va ouvrir juste à côté de nous. Et puis par ailleurs, au Palais de la Découverte, qui est dans le Grand Palais, comme chacun sait, mais au bout du Grand Palais, et qui en est séparé par une porte qui est fermée depuis très longtemps. C'est un peu comme... C'est une porte qui est devenue très symbolique, et nous allons ouvrir cette porte à l'occasion de la FIAC, donc la Foire Internationale d'Art Contemporain, en octobre, puisque la FIAC et nous avons décidé de nous parler, de faire du Palais de la Découverte un endroit de la FIAC hors les murs, où vont se dérouler des performances d'artistes, et en particulier au planétarium d'un artiste avec un de nos médiateurs.
Bruno Macquart.
Eh bien, la FIAC, c'est du 20 au 24 octobre 2016 au Grand
Palais. Bientôt.
C'est tout bientôt. Donc, j'invite tout le monde à y venir.
Moi, je voulais vous interroger sur une exposition qui est prévue, qui s'appelle « Quoi de neuf au Moyen-Âge ?»
Tout à fait, elle commence dans quelques jours.
Quelques jours, voilà. Et moi, j'ai appris des noms de sciences que je ne connaissais pas en lisant le document. La palynologie.
Les pollens.
La science des pollens. L'anthracologie.
Et charbon.
Et donc, qu'est-ce que va montrer cette exposition? Montrer qu'au Moyen-Âge, il s'est passé beaucoup de choses.
Alors, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans d'histoire qui s'intercale entre les premiers temps de l'humanité et puis la vraie naissance de l'humanité qui était la Renaissance. Donc, entre l'Antiquité et finalement sa redécouverte à la Renaissance, nous aurions traversé une période de guerre, de famine... moyenne finalement, peu intéressante. Et nous allons à la redécouverte de cette période qui est en fait très intéressante à plusieurs titres. Et comment on le fait? Ben on le fait en utilisant, en convoquant, en employant les découvertes faites par les archéologues et en particulier ceux qui travaillent en archéologie préventive. Et donc c'est une manifestation qui est coproduite avec l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Vous savez, c'est les gens qui font les fouilles quand on fait une autoroute ou un grand équipement commercial.
Qui retardent les travaux.
Et qui nous permettent de sauvegarder ce qui doit l'être. 20 ans de découvertes, aujourd'hui, permettent de relire le Moyen-Âge et de donner à penser que c'est une période où beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui a été inventé, en fait.
Par exemple ?
Les banlieues, beaucoup de choses ont été inventées. Les lunettes ont été inventées au Moyen-Âge. Donc nous allons à la fois parler de... Les boutons ont été inventés au Moyen-Âge. Beaucoup de choses, des petites choses et des grandes choses de la vie quotidienne. Et c'est un temps de mutation économique, culturelle, religieuse absolument considérable. Puis 1000 ans, c'est long. Donc nous faisons ça à partir d'objets, mais là aussi en développant ce que nous savons faire, c'est-à-dire des manips, puisque les gens pourront expérimenter avec leurs mains de la manière la plus attractive possible un certain nombre de choses que je ne dévoile pas, parce qu'il faut donner évidemment aux gens
c'était
l'envie de venir.
Rappelez quand démarre cette exposition sur le Moyen-Âge?
Alors, Quoi de neuf au Moyen-Âge démarre le 11 octobre 2016 et elle courra jusqu'au 6 août 2010.
C'est-à-dire juste après la fête de la science.
Juste après la fête de la science.
Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la fête de la science? Alors, c'est encore un anniversaire.
C'est une grande
joie.
C'est
un anniversaire
joie.
Tous les ans, puisqu'elle a lieu tous les ans, mais là c'est le 25e.
C'est le 25e anniversaire de la fête de la science et en fait nous allons célébrer un anniversaire multiple. La fête de la science c'est un moment de grande joie puisque toute la maison est sur nos deux sites totalement gratuite. Sur 3 jours, vendredi, samedi.
3 jours gratuits.
3 jours totalement gratuits. Où il y a de la science du sol au plafond et beaucoup de choses qui viennent là pour l'occasion. Pour les 25 ans, l'ensemble des organismes de recherche nous font l'honneur de venir à la Cité des sciences et de l'industrie. Nous allons avoir le festival Sciences en vue, donc de films scientifiques dont je parlais tout à l'heure, en collaboration avec le festival bien établi qui est Paris Sciences, organisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis, un nombre important, vous savez, d'associations qui travaillent dans le secteur et qui viennent avec des propositions plus intéressantes les unes que les autres. Alors, la fête de la science est aussi le moyen de tester la popularité de nos établissements, mais aussi l'intérêt de la science. L'année dernière, nous avons rouvert la Cité des sciences, après l'incendie, pour la fête de la science. Et sur les deux sites, on a eu 63 000 visiteurs en trois jours. 63 000 visiteurs, c'est la population de Quimper. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une ville moyenne qui pousse la porte en un week-end de nos deux établissements. Alors quand on dit que la science n'intéresse pas, je me permets de penser le contraire.
Mais vous dites que la mission de l'Univers Science, c'est de diffuser la culture scientifique, technique, industrielle partout, enfin, quelle que soit la situation géographique des personnes concernées. Comment est-ce que vous créez des relations avec la province, avec l'étranger? Comment est-ce que vous sortez de Paris, en fait?
La France a la chance d'être dotée d'un réseau de centres de culture scientifique et technique particulièrement dynamique. Aller à Toulouse, aller à Rennes, aller à Bordeaux, aller à Strasbourg, dans des plus petites villes, le Cheylard, en Ardèche, vous trouvez sur l'ensemble du territoire une cinquantaine de centres de sciences très dynamiques, très inventifs et qui attirent beaucoup de public. Bordeaux, Cap Science qui vient de fêter ses 20 ans, c'est l'institution culturelle qui attire le plus de visiteurs sur la ville. C'est
l'espace des sciences à Rennes aussi.
L'espace des sciences à Rennes, le muséum d'histoire naturelle de Toulouse, les muséums sont nos cousins. Ils ont des collections. Ce sont aussi de grands pourvoyeurs de culture scientifique. Eh bien, le Muséum de Toulouse attire plus de visiteurs que la totalité des musées de Toulouse. Bref, je pourrais multiplier à l'infini les exemples. On est riche.
Ce sont des chiffres qui m'étonnent, mais que je me réjouis d'entendre. Que la science attire plus que beaucoup d'autres choses.
Parce que, par ailleurs...
Ce n'est pas le discours qu'on entend d'habitude.
Ce n'est pas le discours qu'on entend. Je pense que nous avons à travailler collectivement à une meilleure visibilité de nos maisons. On attire, bon an, mal an, entre 10 et 15 millions de personnes par an dans nos murs. C'est considérable. Nous sommes un gigantesque musée du quotidien, les uns et les autres, de Lille à Marseille. Et ces endroits inventent chacun une des manières de faire différentes. Ce qui me frappe, c'est que... ce que vous trouvez à Caen avec le nouvel équipement qui vient d'ouvrir, absolument fantastique, maison de l'innovation, ne ressemble pas à ce que vous trouvez à Villeneuve-d'Ascq, par exemple, ni à ce que vous trouvez à Chambéry, mais chacun a...
C'est-à-dire qu'il y a des effets de culture et de géographie dans la façon de présenter la science.
Il y a des effets d'écosystème. Les écosystèmes régionaux sont différents. Les rapports avec l'université, avec le monde de l'entreprise... avec les autres équipements culturels, avec le monde associatif, sont différents. Et ça donne à chaque fois quelque chose d'unique. Mais en tout cas, à chaque fois, de particulièrement sympathique. Et alors, Univers Science travaille avec ses collègues sur une base, j'allais dire, volontaire. Et nous avons des collaborations qui sont... on réfléchit ensemble. Par exemple, il y a un groupe de travail qui fonctionne depuis plusieurs années sur... la médiation numérique. Nous coproduisons des expositions avec nos amis de Rennes. On va coproduire une exposition sur la ligne à grande vitesse, les mains dans le cambouis. Ou bien nous allons ensemble monter des formations. Nous avons en particulier lancé une école de la médiation qui est une petite structure qui vise à former les médiateurs en sciences. Nous pensons que la culture scientifique, c'est aussi un métier, qu'il faut le professionnaliser. Nous avons de l'expérience, les uns et les autres, maintenant. Hubert Curien était le grand...
initiateur de la fête de la science.
Le grand initiateur de la... Voilà, c'est lui qui a donné l'élan à la culture scientifique comme elle est aujourd'hui. S'il voyait ce qu'elle est, il aurait lieu d'être fier aujourd'hui. Et nous sommes dans une phase où nous devons, je pense, gagner en visibilité institutionnelle et puis... travailler à consolider nos savoir-faire, que ça soit en France ou à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, Universcian, ça a la taille critique pour se déployer hors de nos frontières. Et nous sommes une institution d'État, financée par l'État. Et donc nous servons aussi d'instrument de diplomatie à l'étranger et nous sommes en lien très étroit avec l'Institut français qui regroupe donc sur l'ensemble du globe la représentation culturelle et scientifique de notre pays. Et par exemple, au moment de la COP21, nous avons mis à disposition de l'Institut français une exposition sur le climat, une exposition qui était tout en fichier, donc juste du numérique, donc pas du tout cher à faire circuler, et qui a été montrée dans 20 pays à travers le monde. Donc ça, c'est pour nous très important. Nous vendons aussi des expositions à l'étranger. De plus en plus, nous les coproduisons. L'exposition sur la ville dont je parlais tout à l'heure est coproduite avec le Musée des sciences de Singapour. Et puis, par ailleurs, nous développons de l'export de notre savoir-faire, l'ingénierie. Et donc, nous avons des partenaires, j'allais dire, presque sur l'ensemble des continents, en tout cas sur ceux dans lesquels les pays qui se développent se tournent vers la culture scientifique. Il y en a en Amérique du Sud, il y en a dans le pays du Golfe, et puis il y en a évidemment dans tout le monde asiatique et chinois en particulier. Donc je suis beaucoup à l'étranger pour...
Est-ce que l'Universcian s'est copié à l'étranger? Est-ce qu'il y a des gens qui s'inspirent directement de ce que vous avez fait pour concevoir des musées de sciences, de techniques? Ou est-ce qu'à chaque fois on tombe sur des biais culturels qui font que ce qui est présenté est assez différent?
C'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est-à-dire qu'on retrouve, des choses que nous avons pu inventer, qui sont digérées par d'autres, transformées. Et finalement, nous formons aussi une grande famille mondiale. Et tout le monde se connaît peu ou prou. Et tout le monde, il y a une émulation assez saine. Et qui fait que, par exemple, à Hong Kong a un musée de sciences extrêmement dynamique. Qui attire beaucoup de monde, en particulier des enfants, et nous travaillons souvent avec eux sur autour de la cité des enfants. Donc ils reprennent des choses de chez nous, mais ils les adaptent, ils les mettent dans un autre contexte. Bref, la relation est étroite, et elle est dans les deux sens d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup à apprendre de ce qui se fait à l'étranger, puisque Dieu soit loué, il y a des musées qui ouvrent tous les jours. Le Musée des sciences et techniques de Montréal va rouvrir fin 2017. Et évidemment, il va rouvrir avec une proposition totalement renouvelée. C'est un musée à collection, hein, avec des locomotives, des avions. Il va marier les technologies numériques, la réalité augmentée, avec ses collections de manière assez spectaculaire. Donc nous irons tous à Montréal pour voir ce qu'ils ont fait, parce que, encore une fois, chacun apporte sa pierre à un édifice commun, mais nous partageons des valeurs qui sont celles d'Universcience, qui sont l'ouverture, l'universalité dont je parlais tout à l'heure, et puis l'innovation. Nous sommes des établissements oui, OUI.
Bruno Macquart, vous projetez également d'organiser des festivals. Qu'est-ce que c'est qu'un festival Universcience?
Alors c'est un moment assez ramassé dans le temps. En général c'est sur un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Souvent le vendredi c'est pour les scolaires, samedi, dimanche c'est pour les individuels et les familles, qui sont un temps fort autour d'une thématique et qui permet d'offrir au public des propositions à tous les étages de la maison, que ça soit sous forme de démonstration, dedans ou dehors, que ça soit sous forme de films, d'exposés. Bref, c'est un moment d'effervescence pour nous et qui viennent utilement compléter nos offres, qui sont des offres d'exposition permanente ou temporaire, et ou nos offres de conférences, ou bien à la Cité des Enfants, ou bien au Fab Lab. Alors, ça permet, ça a une vertu aussi importante à nos yeux, c'est que il faut 2 ans pour faire une exposition, et il faut 6 mois pour faire un festival. Ce qui veut dire que on peut plus facilement capter un sujet,
improviser.
Être plus peut-être plus réactif par rapport à nos envies. Donc ce sont des formats plus exigeants à la fois et aussi plus légers qui ont trouvé à se concrétiser au printemps dernier avec un festival sur les drones. Donc on a été les premiers à Paris à faire un festival drôle de drones. Comme il a marché, eh bien il y aura une deuxième édition l'année prochaine.
Quel était le public ? C'était des jeunes plutôt ou...
Alors c'était...
Ça intéresse toutes les générations.
Il y avait beaucoup de jeunes, parce qu'il y avait des courses de drones, parce qu'on a fait venir espèce de génie bricoleur, qui est un Canadien incroyable, qui s'appelle Alexandre Duru, et qui a inventé le hoverboard, c'est-à-dire la planche à roulettes, mais qui vole au lieu d'avoir des roulettes. Donc il a fait des démonstrations, c'était la première fois en Europe, bien sûr.
Il a volé sur sa planche.
Il a volé au-dessus des bassins de la Cité des Sciences et de l'Industrie, et ma foi, ça, c'était un grand moment, parce que la Cité des Sciences et de l'Industrie, finalement, c'est une gigantesque vitrine, c'est un endroit où les gens doivent venir voir les choses pour la première fois. On veut être l'endroit où les choses se voient et où les gens ont un rapport, facile avec les choses, avec les idées, avec les gens, parce que dans nos festivals, on fait aussi venir les scientifiques, les industriels, et qui parlent au public. Par exemple, une petite société française, vous savez, qui a développé une méthode pour reconstituer en 3D les ruines de Palmyre, et qui est venue non seulement projeter ces images, mais aussi expliquer comment elle travaille. C'est une manière de parler de sciences et techniques très, très vivantes, et le succès nous a conduit à donc programmer cette deuxième édition de l'année prochaine. On va le faire là, au mois de décembre, sur l'alimentation du futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va trouver dans nos assiettes dans 30 ans.
Alors, quand j'étais adolescent, on parlait d'alimentation en l'an 2000, c'était des comprimés, des tubes, des pastilles.
Et voilà. Ben en fait, c'est pas ça. demain, il va y avoir beaucoup d'autres choses. Les algues vont jouer un grand rôle, vraisemblablement. L'agriculture revient en ville, pour un tas de raisons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a installé, ça a été un petit clin d'œil, 2 moutons sur le parvis de la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui montrent qu'aujourd'hui, on peut utiliser les animaux de la ferme en ville. Parce que c'est plus écologique que les tondeuses.
Ça fait moins de bruit.
Ça fait beaucoup moins de bruit. Et ce programme Animaux de la Ferme va connaître de nouveaux développements l'année prochaine. Alors, un festival sur les drones, un festival sur l'alimentation, un festival sur les nouveaux moyens de déplacement. On fêtera le printemps l'année prochaine avec un festival roue libre. Du vélo au skateboard en passant par les nouveaux objets de déplacement individuel. Beaucoup de choses se passent et nous voulons les montrer, les faire essayer par le public et puis toujours parler de la science derrière et de là où la société est aujourd'hui, là où elle peut aller demain. Nous sommes un peu des éclaireurs du futur aussi, on n'a pas la science infuse, en tout cas nous ne détenons pas la vérité, mais nous souhaitons donner aux gens des moyens de se faire une opinion, en tout cas d'aiguiser leur curiosité, que ce soit une curiosité de spécialiste ou une curiosité d'honnête homme.
Merci Bruno Macquart d'être venu à cette conversation scientifique. Vous nous avez donné les 1000 et 1 raisons d'aller à la Cité des Sciences ou au Palais de la Découverte. Enfin, et au Palais de la Découverte, il faut pas négliger l'un pour l'autre, il faut aller aux deux. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Édouard Rubinstein et à la réalisation François Connac. tout de suite, c'est-à-dire très exactement dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le nouveau rendez-vous cinéma de France Culture.